RPL.
RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2.
89.2.
Dans notre studio, au fil de l'eau, jusqu'à 11h, nous sommes en compagnie de Jean-Louis et de ses invités. Et nous partons à la découverte du Vieux Moulin. Nous allons parler de son histoire et plein d'autres choses. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bonjour,
bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour à tous. Écoutez, au fil de l'eau, continue son petit chemin sur les ondes de RPL. Et aujourd'hui, c'est l'ESAT, la chaussée, l'étang de la chaussée, renommée mondiale, hein, dans la Meuse. Je pense que tout le monde connaît, mais je pense que cet endroit atypique, vous allez mieux le connaître avec mes invités. J'ai Fabrice André, que je présente encore, mais vous l'avez déjà vu sur les ondes Guide Nature. Donc Fabrice, tu es Guide Nature, photographe avec ta deuxième casquette surtout. Pour aujourd'hui.
Bonjour Jean-Louis, je vais...
Un moniteur dans un ESAT.
Oui,
atypique.
Moniteur d'atelier.
Voilà, voilà.
Dans un ESAT.
Ouais. Vas-y, raconte-nous voir un peu ta deuxième
parcours,
casquette.
Voilà, donc ma deuxième casquette,
parcours.
C'est moniteur d'atelier dans un ESAT. Ça fait une dizaine d'années que je suis embauché sur l'ESAT de la Chaussée, donc APF France Handicap, c'est la structure qui m'a accueilli, donc qui m'a embauché. Et donc là, je suis sur un atelier de menuiserie. En recycling. C'est une ressourcerie de bois. Donc, comme on récupère des palettes, on les calibre, on les transforme et on fait du mobilier, toutes sortes.
Ah, c'est très bien, très bien. On va avoir le temps d'en parler. Merci pour cette petite introduction. Et en face de moi, j'ai Philippe Montchéri, qui est éducateur spécialisé et chef de production tout secteur. Alors bonjour Philippe,
bonjour.
Merci d'être là en tous les cas, parce que je sais que ton emploi du temps est très chargé et puis tu as beaucoup de travail avec, moi je les appelle toujours les petits gars parce que je les ai vus et ils font un super boulot. Et tu es sur la Chaussée.
Voilà.
La Chaussée c'est une réserve naturelle atypique qui a un peu plus, qui a un peu plus 40 ans. Et j'aimerais bien que tu nous cadres ce petit joyau.
C'est déjà un lieu multiséculaire. Hein. Donc c'est un étang qui a été fondé, parce que la Chaussée c'est déjà un étang de 350 hectares qui a été fondé au 13e siècle, 12e même, hein, 1240 par un noble du coin. Qui a eu divers propriétaires, et l'avant-dernier propriétaire, c'était l'antépénultième des propriétaires, c'était un baron, qui, à la fin des années 70, en a fait un legs à l'Association des paralysés de France, Association des paralysés de France qui ensuite est devenue APF France Handicap, puisqu'il a ouvert le champ de ses accueils. Il faut savoir que notre cœur de métier à la Chaussée, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Sur des actions, des actes professionnels. Donc on a une action professionnalisante de ces personnes-là.
Alors on parle toujours de l'ESAT, mais ça veut dire quoi
ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail.
Ah, voilà.
Auparavant, on avait cette appellation de CAT, centre d'aide par le travail,
d'accord.
Qui a évolué au fur et à mesure, avec cette ambition d'insérer des personnes dans le monde du travail, un monde protégé hein, pour ces gens qui sont dans cette structure. Mm-hmm. Mais de plus en plus, on a cette injonction de la part de nos financeurs, hein, de nos législateurs, de pouvoir les accompagner jusqu'à sortir de l'établissement. On serait un tremplin pour les personnes les plus à même, celles qui ont ce potentiel de pouvoir être insérées dans le milieu ordinaire. Donc nous, on a développé beaucoup d'activités. Mmh. Différentes, hein, sur des actions, on va dire, agrotouristiques, d'élevage, de transformation de produits, de restauration, d'animation également, de randonnée, pour pouvoir avoir une palette très 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 diversifiée de métiers dans lesquels ces personnes qu'on accueille pourront s'épanouir.
D'accord. Et il y a combien de personnes à l'ESAT ?
Alors aujourd'hui, on a un agrément de 40 personnes en situation de handicap. Tous ne sont pas à temps plein, donc on peut accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes,
hein,
avec
les temps
partiels. Et également, on est au niveau équipe pluridisciplinaire, on est une douzaine, 12-13 personnes à les accompagner.
D'accord.
Depuis le directeur jusqu'à la référente socio-éducative. Et puis tous les moniteurs, le secrétariat, les comptables, etc.
Ah bah c'est impeccable, c'est quand même une grande équipe.
C'est une grande équipe. Et également, on a un foyer au centre du village qui héberge une partie des gens qu'on accueille. Mm-hmm. On va dire que sur le secteur de la chaussée et même de notre Comcom, hein, on est l'un des plus gros employeurs.
Ah bah c'est bien.
Ça fait vivre, on va dire, 70-80 personnes sur le secteur directement.
Et donc, nonobstant le travail, il y a quand même une partie pédagogique dans ces cas-là.
Ah oui, tout à fait. C'est le nerf de la guerre. Voilà, tout à fait.
Alors, sur ce site, qui est quand même c'est un site exceptionnel de vie, hein, autour du plan d'eau, 350 hectares, qui est dans la verdure, qui est vraiment un site magnifique. Oui. Mais il se passe quoi dans la journée alors? Comment, une journée, mettons, atypique.
Une journée type? Ouais. Il n'y a pas de journée type. Dans l'agriculture, voilà. Vous savez, on a toujours des projets, mais le climat, le temps, les impondérables font qu'on est souvent obligé de modifier notre... Enfin, en tout cas, au niveau de la partie agricole, hein, modifier un peu notre... en tout cas, ouais, modifier notre emploi du temps. Une journée, c'est
plusieurs métiers.
Ouais, c'est ça. Donc, les gens que l'on accueille, ce sont des gens qui choisissent déjà leur métier. On a le métier de la pisciculture, le métier de l'horticulture. On a celui, l'abattage de poissons, le cuisinier, le charcutier, l'hôtellerie avec ces gens qui ont décidé, en tout cas qui accueillent la personne au restaurant ou qui font les ménages, parce que le ménage est très 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 important dans un système comme le nôtre, hein, c'est l'accueil des gens. Notre petit réseau de commerciaux, hein, qui vendent en boutique. On a une petite boutique qui promeut nos produits. Également, c'est une boutique du parc où on vend aussi des produits d'autres producteurs du secteur. Et puis on distribue, on peut faire des livraisons, voilà. Donc tous les métiers, on va dire, de l'épuisette jusqu'à la fourchette sont représentés dans notre établissement. Et les personnes accueillies, eh bien, au démarrage, c'est elles qui choisissent l'orientation en fonction de leurs affinités professionnelles.
Ah d'accord, ça, mais ces jeunes gens et jeunes demoiselles, puisqu'il n'y a pas que des hommes, hein, je pense,
oui.
Quand ils arrivent chez vous, déjà, ils doivent être émerveillés de voir où ils vont travailler. Et il reste combien de temps? Alors, est-ce qu'à demeure ou alors
variable,
ils ont la possibilité d'évoluer ailleurs?
Alors, ailleurs dans l'établissement?
Dans l'établissement.
Ou ailleurs. Donc, c'est très, très, très variable parce que les parcours, nous, on fonctionne avec des parcours individualisés. Donc, une personne vient chez nous, elle vient... Donc déjà, eux, leur parcours, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens, des accidentés de la vie, pour certains, hein, des accidentés de la route,
généralement, ils sortent d'un IME.
Ou d'une structure médicale, parce que, je vous dis, une accidentée de la route, ou alors quelqu'un qui a fait une rupture d'anévrisme, ou des gens qui sont des problématiques sensorielles, visuelles, comme auditives. Ça peut être des gens qui ont des problématiques psychologiques, psychiques, psychiatriques. Mm-hmm. Donc on a tous les cas de figure qui se présentent. Et ces gens, en arrivant chez nous, ils commencent déjà par un stage, découverte. Nous, on découvre ces gens. Mm-hmm. Eux, ils nous découvrent également. Mm-hmm. Et ils se rendent compte, sur une activité donnée, si c'est quelque chose qui leur plaît. Déjà, être à la campagne et accueilli dans un foyer en pleine campagne, c'est quelque chose aussi de... qui n'est pas, comment dire, c'est pas le choix de vie de tout le monde.
Oui, hein.
Aujourd'hui,
oui,
on est dans une société de consommation. Il y a certaines personnes qui se retrouvent isolées dans un village sans bar, sans rien, sans cinéma, sans magasin. C'est un petit peu déconcertant.
Oui, c'est déjà un choix qui se passe.
C'est déjà un choix de vie. Ensuite, les gens, quand ils arrivent dans notre structure et qu'ils choisissent un métier, ils ne sont pas contraints à garder ce métier. À un moment donné, ils peuvent nous dire, écoutez, moi j'ai fait le tour ou je me suis trompé. Est-ce qu'il est possible, eh bien, plutôt que de faire cuisinier, eh bien, d'élever des poissons? Donc c'est des choses que l'on permet. Donc on met en place une organisation qui va permettre à ces gens-là de faire une bifurcation de leur parcours professionnel.
D'accord. Voilà.
Donc combien de temps il reste? Eh bien c'est variable.
C'est variable.
Il y a des gens qui auront fait leur vie. L'établissement a été créé en 1982. Et dernièrement, on a une personne qui, donc c'est en 2023, est partie en retraite. Donc toute sa carrière professionnelle, il l'a faite dans nos murs. D'autres personnes, ils vont rester 6 mois, parce qu'à un moment donné, ils trouveront que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. ou parce que nous, on a évalué également que ces gens-là n'étaient pas en mesure, au moment présent, de pouvoir mener une activité professionnelle. Il leur manquait quelque chose, surtout en termes de savoir-être. Nous, c'est très important d'éduquer les gens sur un savoir-être professionnel, mm-hmm. plus que sur un savoir-faire. Le savoir-faire, les gens arriveront toujours à se rendre utile, entre guillemets, mais le savoir-être, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Donc, ils sont suivis. Si je comprends bien, ils sont suivis, ils sont indépendants, ils gèrent leur vie, comme
alors,
tout le monde.
Oui,
tout
dans chacun, tous les cas, hein, c'est...
Je parle de travail, après,
tout,
c'est autre chose.
Même au niveau, oui, en tout cas, c'est la liberté du choix. Nous, on les éclaire. On leur dit, attention, si tu vas dans cette direction-là, voilà les risques. Et ensuite, en fonction de ce qu'on peut leur apporter comme éclairage, c'est eux qui font qui décident.
D'accord. Alors... Maintenant, c'est implanté, la personne, elle arrive chez vous, elle a choisi que ça soit cuisinier ou à la menuiserie. Une journée, qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh bien voilà, une journée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est déjà, si on est sur la partie agricole, c'est le soin aux animaux, c'est surveillance. Hein, les animaux chez nous, c'est les poissons. Hein.
Oui. Avant, oui. Je me rappelle, il y avait les lapins, les poules.
Voilà, on était éleveurs. Voilà, c'est ça. Okay. On a eu énormément de métiers, entre guillemets, dans l'établissement depuis 82. On a élevé des canards, on a fait du foie gras, on a élevé des poulets, des lapins. On a eu quelques moutons, on a eu des oies, on a fait toute la basse-cour. On a des chevaux qui nous permettent d'entretenir d'une façon écologique le site. Alors après, quand on est éleveur, l'objectif, c'est de déboucher nos produits. Hein, donc dans l'histoire, elle est comme ça. On a eu un leg d'un étang de 350 hectares avec les difficultés de gestion d'un étang quand on est handicapé moteur, parce qu'au démarrage, l'Association des Parisiens de France n'accueillait pratiquement que des personnes en situation de handicap moteur. Et on se disait, marcher dans la vase, quand on a de la vase jusqu'au genou, et puis pouvoir tirer un filet, et puis voilà, donc ça,
c'est la difficulté
motrice, ouais. Ou même dans un bassin, c'était pas adapté à toutes les personnes qu'on accueillait. Donc il a fallu se décarcasser, se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme autre activité beaucoup plus en phase avec les différents handicaps que l'on va accueillir. C'est de là que l'idée est venue, on est en pleine nature, en pleine campagne, et bien on va faire un élevage de volailles. Cet élevage de volailles, les animaux, il fallait les abattre, parce qu'il fallait commercialiser les produits. Mmh. Donc, on a créé un abattoir de volailles.
D'accord.
On allait vendre sur marché. Sur nos marchés, automatiquement, les gens qui viennent chercher leurs produits, ils nous disent « Ah bah tiens, au fait, vous n'auriez pas de la pintade, vous n'auriez pas du canard, vous n'auriez pas des lapins. » Donc, au fur et à mesure, on a fait grossir
demande,
les élevages. Voilà, c'est le nom. Nous, on s'est orienté en fonction de la demande. De ces produits qui ont été transformés, abattus, il nous reste toujours des invendus. Les invendus, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on s'est dit, il nous reste des cuisses de poulet, des ailes, des machins, des trucs. On va essayer de les transformer, on va faire de la petite saucisse, on va faire des produits, des terrines, des machins, des trucs. Mmh. Voilà, donc on a installé une industrie de transformation. Mais ça ne suffisait pas parce qu'on avait aussi une cantine. Hein, en pleine campagne, il faut nourrir les gens au midi
et puis
les nourrir le soir parce qu'on avait une cantine et un foyer. Donc on a mis en place une petite cuisine et on se disait, puisqu'on a une cuisine qui nourrit les gens à midi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une salle à côté pour nourrir des clients qui vont venir visiter le site ? Donc voilà, donc on a diversifié encore. Avec cette au fur et à mesure, les ateliers se sont ajoutés, mais plus on ajoute d'ateliers, plus il y a de problèmes, parce qu'il faut du monde, parce qu'il faut des compétences, parce qu'il faut, il y a des règles et des normes à respecter.
C'est quand même des animaux vivants, donc il y a un service vétérinaire.
Les vétérinaires doivent passer, les services de contrôle, contrôle vétérinaire également sur nos ateliers.
Ni pintade, ni poulet, grippe aviaire, il y a surtout les oiseaux sauvages.
Ce qui a fondé aussi la mutation de nos activités, avec toutes ces aléas, on va dire, inhérents sûrement à une évolution d'une biodiversité, d'un milieu naturel, également d'une problématique climatique, on a dû réorienter au fur et à mesure, on s'est dit, ça faisait 30 ans qu'on faisait des volailles, 40 ans, on s'est dit, le risque sur une zone de migration, parce que l'étang de la Chaussée, c'est vraiment une zone de migration importante d'oiseaux, les risques de grippe aviaire étaient de plus en plus avérés. Qui dit grippe aviaire dit un périmètre de sécurité, dit un abattage qui ne peut plus fonctionner.
Une perte
parce
sèche.
Que, comment ?
Une perte de sèche.
Bah, des pertes, oui, effectivement. Donc il a fallu un peu rebattre les cartes et se dire qu'est-ce.
Pendant remettre en question, on va
c'est
dire.
Ça. Pendant voilà. toute cette période, on se disait, bon, c'est vrai que les temps, c'est un faire-valoir où les gens viennent un mois dans l'année pour assister à la grande pêche. Mais le restant du temps, c'était, ils venaient chez nous pour nos volailles, pour nos lapins, nos produits charcutiers. Mais avec les risques que ça comportait, on s'est dit qu'il va falloir quand même qu'on trouve une autre solution pour minimiser justement ces risques. Et l'ADN de notre site, c'est l'étang. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de l'étang ? Eh bien, si on ne fait plus de volailles, si on ne transforme plus de cette viande-là, on va peut-être, nos poissons, plutôt que de les vendre vivants en alvinage pour des sociétés de pêche, on va peut-être trouver un débouché culinaire. Et qui était largement fondé à notre sens, puisque l'étang, le grand étang de la Chaussée a quand même une biodiversité et une qualité d'eau remarquable. Et donc, oui. plutôt que d'alimenter des rivières polluées, on s'est dit pourquoi ne pas donner cette possibilité à nos clients de consommer un poisson avec cette chair de qualité.
Parce que les clients, bon, c'est les randonneurs, les promeneurs, ceux qui connaissent la grande pêche, on en reparlera.
Oui,
combien de visites dans l'année ?
Alors, depuis quelques années, là, depuis la grippe, le Covid, l'année Covid, on est en restructuration. D'accord. Une grosse restructuration qui fait
qu'on... Ça a fait du mal à tout le monde.
Ça a fait du mal, mais nous, ça nous a permis, cette période un peu transitoire, de refonder, comme je vous disais, de remettre en place d'autres productions, de réfléchir à des recettes. Mais on a été un peu perdu de vue. Parce qu'on s'est un petit peu replié sur nous-mêmes, surtout les personnes en situation de handicap qu'on accueille, avec la multiplicité de déficiences, entre guillemets, puis de fragilité, a fait qu'on a hésité à faire rentrer du public chez nous. Hors de question que certaines personnes contractent les maladies Covid ou
non,
quelque
ça,
chose d'associé.
Tout le monde était confiné.
C'est voilà, ça. Donc
que la nature qui a repris ses droits.
Oui, chez nous, elle l'a gardé.
Parce que ses droits étaient déjà là, mais... Ça, c'est, l'humain ouais. n'étant plus là,
effectivement,
l'animal
effectivement.
Reprend ses
droits. Ouais, ouais. Bon, voilà. Donc nous, on s'est un petit peu laissé perdre de vue. Mm-hmm. Ça nous a permis de réfléchir à des nouveaux concepts, nouveaux projets. Et aujourd'hui, on est dans une démarche architecturale pour complètement reconstruire nos espaces de travail et d'accueil. Donc, travaille tous les ateliers de production.
C'est ce que j'allais demander.
Et l'accueil du touriste.
Une fois que les poulets, etc., ne sont plus là, les lapins, tout ce qui est volaille, lapins.
Oui.
Quels ont été qu'est-ce qui a remplacé tout ça ? Quels sont les autres métiers, on va dire, entre guillemets, qui ont remplacé
donc,
cela
le poisson, donc ça, c'est la continuation de l'abattage et de la transformation. Mm-hmm. Mais on a aussi mis en place deux ateliers, hein, un atelier d'horticulture. Mm-hmm. On s'est dit également, donc toujours sur le principe de quel est notre ADN, donc le milieu aquatique. La pisciculture, l'aquaculture, donc c'est plus vaste que de l'élevage du poisson. On s'est dit c'est aussi l'élevage de plantes, toutes ces plantes qu'on appelle hélophytes et qui bordent, qui font la ceinture végétale des plans d'eau. Donc on s'est orienté dans cette petite production. Mmh. Et également l'atelier que gère Fabrice, l'atelier de recyclerie de palettes de bois.
Hein, il va nous en parler.
Ouais.
Il a tellement la patience.
Oui, c'est ça. Fabrice, ça, son autre casquette également, ce sont les espaces verts également dans l'établissement, parce qu'il gère aussi cet atelier d'espaces verts, donc service aux clients externes. Voilà. Donc pour cette partie de...
Et, alors on a parlé de plantes hélophytes. C'est pour quel public ? Pour n'importe qui ou alors
ouais, ouais,
pour
ouais,
des grosses structures
alors,
pour,
tout, nous, on, alors voilà. c'est vrai que...
on va déjà dire, c'est quoi une plante hélophyte ?
Les plantes hélophytes, ce sont toutes ces plantes qui acceptent d'avoir les pieds dans l'eau à un moment donné de leur vie. Mm-hmm. Et donc, ils acceptent les moments d'ASEC ou les moments de cru. Voilà. Mm-hmm. Donc, ils ont un potentiel pour résister. Et donc, c'est leur biologie quoi, qui fait ça.
D'accord, ça retient les berges.
Ça peut retenir les berges. C'est,
beaucoup d'oxygénation
c'est retenue des berges, oxygénation, c'est embellissement. Parce que mm-hmm. donc, ça aussi, l'embellissement oui, de par le fleurissement. Donc, ce qui dit fleurissement dit également un intérêt pour tous les insectes pollinisateurs. Ça a aussi des intérêts culinaires. Parce qu'on ne se rend pas compte, on ne le voit pas de loin comme ça, mais certaines plantes ont des, comme la menthe par exemple, la menthe aquatique peut avoir un intérêt dans la cuisine. Également au niveau médicinal, il y a beaucoup de plantes aquatiques qui ont des propriétés médicinales, qui sont perdues, mais qu'en cherchant un petit peu dans les livres, on se rend compte que ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est toutes des plantes, multiples vertus. Local, nous c'est là-dessus qu'on axe beaucoup nos actions, c'est on a une biodiversité qui est on va dire propre entre guillemets à notre terroir.
D'accord.
On n'a aucune plante invasive et c'est quelque chose qu'on tient à préserver. Et donc, on pourra en parler.
Ah oui,
on,
oui,
a une on a eu une action, en tout cas une collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.
Oui, parce que là, c'est le site a été repris par...
Voilà, on pourra en parler. Mais bon, par rapport à tout ça, voilà. Donc, nous, nos plantes, on les destine à des renaturations de sites. Il y a beaucoup d'actions de renaturation, des sites qui ont été, on va dire, un peu saccagés, qui seront remis en état et pour lesquels il est nécessaire de faire une replantation. Des stations d'épuration, avec les phragmites, les roseaux qu'on appelle couramment, roseaux communs, phragmites. Mmh. Également, beaucoup de personnes qui ont ce petit, dans leur jardin, ce petit bassin d'agrément qu'ils ont envie d'embellir. Et donc, ils peuvent venir
d'accord,
chez nous
là
pour,
aussi, d'accord,
pour acheter ces plantes. Voilà, donc
en plus, ils font une bonne action, quelque part.
Une bonne action pour la nature.
Pour la nature, oui, mais aussi pour...
Tous nos clients font une bonne action en permettant à notre association, on va dire, de vivre. Et puis, c'est la reconnaissance, on va dire, d'un savoir-faire, d'une qualité de professionnel de tous les travailleurs que nous, on accueille.
Donc, vous êtes un peu, on va dire, moi j'aime bien ce mot-là, le guide nature de Hildegard von Bingen, qui, au Moyen-Âge, était la première femme à faire de la médecine douce.
Ah oui, donc, oui. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait partie des choses que nous, on peut mettre en avant dans notre... comment dire... Ouais, là où on se trouve, quoi.
Non, c'est très bien. Tour. Donc, écoute, merci pour l'instant, je te garde au chaud.
Ouais.
Parce que là, maintenant, Fabrice, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Quel est ton tarif comme ça, pouf, ça y est, je suis photographe, je suis guide nature, je viens chez vous, allez, explique-nous.
Donc là, je suis...
ta double casquette, on va dire.
Donc, moniteur éducateur depuis 10 ans au sein de l'association APF France Handicap. Mm-hmm. Et ma mission au quotidien, c'est d'accueillir et d'accompagner un public en situation de handicap, en multi-handicap, sur mon atelier. Bon, j'ai démarré quand même dans le maraîchage, d'abord au tout début, quand j'ai intégré l'établissement, l'association. Et après, on a fait des petits tests sur les plantes hélophytes. Quand même, en 2015-2016, on a fait quand même des petits tests sur les plantes hélophytes. Et donc, on les a conduites petit à petit. Et comme disait mon collègue Philippe, on a arrêté toute la production donc de lapins, de poulets, etc. Et il a fallu penser... une autre activité pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap et que ça puisse être adapté en termes d'ergonomie et de sécurité. Voilà. Et comme on travaillait avec une entreprise qui s'appelle Gym Matériaux en Meuse, c'est notre grossiste principal pour prendre du matériel, on s'est rendu compte qu'il y avait une source à prendre, donc des palettes. Donc je me suis dit, allez hop, on va essayer de travailler sur de la récupération de palettes et travailler ce bois-là. Et petit à petit est venu est né cette petite atelier de ressourcerie en bois de palette. Et là actuellement, on a une petite section. Il y a 6 personnes qui au quotidien travaillent dans cette menuiserie, on va dire, sur de la transformation de palettes. Donc on fait de la décoration intérieure, on peut faire des fauteuils, on fait des cadres, toutes sortes d'objets qui sont à base de ces palettes-là.
D'accord. Voilà. Et ça fait ça, en volume, ça représente quoi, tous ces palettes?
C'est assez énorme, mine de rien, on ne se rend pas compte, parce qu'on a vite été...
Parce qu'on parle de palettes, oui. Tout le monde en mange, tout le monde en brûle, on va dire.
Voilà, mais... malheureusement, effectivement, tout le monde en brûle, mais on sait que le bois est cher à l'heure actuelle, et puis c'est quelque chose de riche pour nous, parce qu'on on prend la palette, on la décloute, chacun a sa petite mission, donc on décloute la palette, on commence à les calibrer, déjà regarder ce qui est marqué dessus, parce qu'il faut savoir qu'il y a des palettes qu'on n'utilisera pas, parce qu'il y a, c'est normé, il y a des produits, il y a des palettes qui sont traitées, donc ces palettes-là, ils sont recyclées, donc soit on les rend au grossiste, qui les fait revenir dans le circuit, et donc on n'utilise que les palettes où il n'y a pas de produit dedans.
D'accord, qui sont neutres, non traitées, et puis propices à la consommation.
Voilà. En gros. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant dans un atelier comme ça, c'est que chacun a ses propres capacités, et on essaie, dans l'accompagnement du médico-social, vraiment de... d'avoir un programme adapté à la personne accueillie, et aussi à ses souhaits, comme disait Philippe, c'est la personne qui décide de son métier, de son envie. Donc avec l'accompagnatrice médico-sociale, ma collègue Céline, il y a un programme qui s'appelle un PPI, un projet individuel personnalisé, donc qui est établi
pour chaque résident,
personne en situation de handicap. Et donc on établit ce programme en termes socio-professionnels, on va dire. Et donc, on accompagne la personne petit à petit vers une amélioration technique dans la pratique du travail, tout en étant bienveillant aux mots au quotidien. Je veux dire, quand j'accueille une personne au quotidien, c'est pas « allez, on va se mettre au travail ». On va déjà se saluer, se serrer la main et voir si la personne se sent bien déjà pour appréhender la journée. C'est déjà la mission première du moniteur, déjà
oui, c'est l'accompagnement,
de prendre la température pour vraiment que ça se passe bien dans la journée. On est vraiment attentif à ça. Voilà. Et après, la journée se déroule petit à petit. C'est par tranche de 2 heures, parce qu'on a une pause à 10 heures. Oui. Donc on démarre à 8 heures du matin, on commence notre petite journée à voir ce qui va être fait. Après, on prend notre petite pause, on échange et on reprend la deuxième partie de la matinée. Ensuite, il y a le déjeuner, la cantine. On reprend à 13h15 jusqu'à 15h, la petite pause. Et à 16h15, c'est la fin de la journée.
Fin de la journée. Ils sont contents.
Ah, ils sont très contents. Ils sont très contents. Et je veux dire, c'est pas une entreprise ordinaire. C'est vraiment quelque chose il y a un échange au quotidien. Je veux dire...
C'est une gestion de bon père de famille, quoi.
Oui. C'est ça. Ouais. C'est être attentif. C'est être beaucoup dans l'échange. Et en termes de moniteur, je veux dire, quand on a la pause de 10 heures, donc les personnes prennent leur petit café, et nous, ça nous permet de débriefer entre moniteurs. On se revoit au moment de la pause, et on peut échanger sur et ajuster, surtout.
Ajuster, réorienter, voilà. Etc.
S'il y a eu des difficultés, on peut ajuster au mieux les soucis que les personnes peuvent rencontrer. Voilà. Et on en réfère à...
Juste pour compléter.
On est là pour parler.
Non, je ne vais pas couper non plus. Pour compléter ce que disait Fabrice, c'est vrai qu'il y a cette prise en compte de la personne dans tout ce qu'elle est. Mais ça n'empêche que derrière tout ça, il y a une exigence professionnelle.
Sinon, ça ne sert à rien.
Voilà,
on n'avance pas.
Voilà, c'est ça.
Mais qui a l'idée, mettons, je sais pas, aujourd'hui, on va faire un fauteuil. Qui a eu l'idée? Est-ce qu'il y a une idée déjà? Est-ce que vous avancez déjà l'idée de faire ça? Ou alors, est-ce que vous concertez en disant, avec l'équipe de jeunes, en disant, qui a une idée? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec ça? Est-ce que vous les orientez dans ce cycle-là? C'est-à-dire que, bon, les palettes, c'est bien, mais bon, je suis allé visiter quand même, j'ai vu qu'il y a des choses vraiment... Puis il y a des commandes, comme avec Faune et Flore Grand Est, parce que là, c'est un gros partenariat. Mais vous avez des planches, vous avez des palettes, les palettes arrivent. Est-ce que vous les orientez vers les idées que vous avez conçues, vous, ou alors est-ce que vous pouvez, est-ce que vous leur posez la question, ah bah tiens, qu'il y a une idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette palette ? Comment ça se passe ?
Déjà, on est dans l'échange au sein d'un atelier, oui. Mais on a la grande chance d'être, en tant que moniteur, assez créatif. Notre employeur et mon chef nous laissent vraiment libre cours. Bien sûr, il faut que ça se vende. Hein. Bien sûr, on va faire quelque chose pour que ça puisse se vendre. Mm-hmm. On a vraiment la chance, à l'ESAT de la Chaussée, d'être vraiment créatif et d'avoir vraiment la liberté sur notre atelier. Et ça, c'est vraiment une richesse parce que ça se répercute sur la personne accompagnée. Oui. C'est-à-dire, et donc, ça fonctionne très bien comme ça.
L'objectif, en tout cas pour ma part, c'est que chaque professionnel, qu'il soit encadrant ou qu'il soit travailleur, puisse s'éclater dans sa fonction.
Donc, ils arrivent le matin avec les bulles dans la tête et ils repartent le soir avec les bulles dans la tête.
Hors de question que quelqu'un vienne avec la boule au ventre au travail. On l'a déjà connu tous. Je pense que tout le monde l'a connu.
Ça génère du stress. Ça pollue, c'est contagieux.
Et cette force, chaque moniteur est force de proposition. C'est vrai que par rapport à cette idée recyclerie bois,
je trouve que c'est noble. C'est très intéressant.
Fabrice a eu cette idée. Il a aussi fait des recherches parce que se dire tiens, donc il a été sur internet, il a même dans son temps libre, en tout cas hors travail, il rumine quand même le boulot.
Je suis allé voir ce qui se vendait dans les grandes boutiques, on va citer d'enseignes.
Oui, non, mais tout le monde les connaît.
Et donc j'ai essayé de faire ma petite enquête, et quand je voyais les prix pour une petite planche, je me suis dit oh là, il y a quelque chose à faire là. Donc c'est parti comme ça.
Oui, parce que vous avez dit, ça se vend, vous vendez, parce que vous n'êtes pas mécène non plus, mais bon, c'est des prix abordables.
On essaye. Après, c'est sûr que sur ce type de produit, on est dans une forme de recherche et développement. Et donc, il y a ces idées, on a des créations. Après, pour les mettre en commercialisation, beaucoup plus compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a des normes. On imaginait vendre des chaises longues, des bains de soleil, faites en bois recyclé. Quand on fait ce type de produit, il faut que ce soit norme française. Qui dit norme française dit passage par un organisme qui va... Et puis c'est de l'argent à investir. Donc c'est toutes des études de marché à faire. Aujourd'hui, on est dans un système où on fabrique pour nous, pour l'instant, où on le met en valeur chez nous. Les gens, ils ont cette vision, quand ils vont dans notre auberge ou dans notre magasin, ils voient ce qu'on peut réaliser avec ce type de produit, comment ça peut s'inclure dans un intérieur. Ça peut donner des idées. Maintenant, c'est vrai que toute cette partie promotionnelle, mise en valeur, packaging, explication, c'est encore un peu de boulot à faire.
C'est presque du bouche à oreille. Il y a quelqu'un qui voit quelque chose de bien.
Voilà, pour l'instant.
Bien, voilà. Il dit, est-ce que vous pouvez le faire
c'est
pour
ça,
moi
c'est donc ça. On est dans ce
habitué, on peut le faire, mais sachez que...
Après, c'est sûr que c'est aussi... On reste dans une forme de menuiserie. Et la menuiserie, c'est du matériel, c'est des compétences, c'est du risque. Il faut aussi... Il y a des poussières, il y a des risques de coupure.
La mise en sécurité du personnel est importante.
On a des gens qui n'ont qu'une seule main, qui ne peuvent réaliser qu'une tâche bien définie en fonction de leur handicap. Donc voilà, c'est tout un ajustement qu'il faut faire dans l'atelier. C'est motivant de temps en temps. C'est aussi...
C'est motivant, innovant.
Innovant, mais de temps en temps, on se dit mince, mais...
Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi.
Ça nous oblige en permanence à cogiter, quoi.
D'accord.
Ma priorité dans cet esprit donc de fabrication, c'est aussi qu'on aille vers l'extérieur. Mon objectif, c'est qu'on puisse, dans le design d'intérieur, parce qu'on fait de la plaquette de design d'intérieur, pour habiller des murs, etc., c'est qu'on puisse aussi, une fois qu'on aura un petit peu abouti notre packaging et notre normalisation de produits, c'est que nos personnes en situation de handicap puissent aller faire de la pause. Et comme ça, on a, comment dire, une ouverture sur le monde. Parce que dans les ESAT, les travailleurs sont entre personnes en situation de handicap. Et pour moi, c'est quelque chose de difficile au quotidien, de voir que les personnes sont tout le temps regroupées entre elles et qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, qu'on ne puisse pas aller faire des expos, comme on aura la chance de faire donc le 14 avril. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour moi, que les gens puissent... Bon, on a des visites en interne, hein, bien sûr, on reçoit des gens.
Mais c'est toujours en interne.
C'est toujours en interne.
Voilà, c'est, vous n'êtes pas, vous, ouais, vous allez pas à l'extérieur encore.
Oui, mais ça n'empêche que c'est aussi important pour les travailleurs de chez nous d'avoir cette visite.
Voilà, oui, de se faire...
Il y a beaucoup d'ESAT qui sont dans des hangars, milieux fermés. Confinés dans ces bâtiments-là, ils n'en sortent pas. Chez nous, c'est un milieu ouvert. Les gens peuvent circuler, ils peuvent passer dans les ateliers.
C'est ouvert, quel écran.
C'est ça. Donc en permanence, ils peuvent avoir un échange avec les travailleurs. Chacun est capable de
répondre à une question.
Répondre, de présenter ce qu'il fait. Donc c'est aussi vachement très, très épanouissant. Chaque secteur, pratiquement, à part les secteurs vraiment bien confinés dans l'agroalimentaire, où là, on ne peut pas faire rentrer les gens.
Ouais, c'est normal, c'est une question de sécurité, d'hygiène.
Il y a quand même nos fournisseurs qui ont ces échanges avec nos gens, nos clients. Dans l'ensemble...
Les touristes, les camping-caristes.
Ouais. C'est ça. La chaussée a toujours été un lieu, on va dire, inclusif. C'est pas la personne valide qui va accueillir à lui la personne en situation de handicap. C'est la personne. Voilà. Le valide vient chez la personne en situation de handicap.
C'est ça qui est riche.
Voilà, c'est ça.
Hein, parce que bon, dans le temps, on avait toujours la peur de l'autre, hein, mais tandis que là, c'est riche parce que. On les voit travailler, on voit ce qu'ils font, et puis on a toujours envie, moi je parle personnellement, toujours envie de leur poser des questions.
Et c'est des gens qui sont extrêmement demandeurs à ce lien social.
Je trouve que c'est important, hein, parce qu'on est à l'abri de rien.
Ils ne vont pas avoir de renseignements.
Voilà, tout
c'est
à fait.
Les premiers à pouvoir dire ce qu'ils font.
Donc, si on revient aux étangs de la chaussée, on dit les étangs de la chaussée parce qu'il n'y en a pas qu'un.
Les étangs de la Wavre. Les étangs de la chaussée, à la chaussée, il y a un étang de 350 hectares, mais qui est surmonté de deux autres étangs qui font 10 et 12 hectares. Mais à la chaussée, les ZAT exploitent encore deux étangs supplémentaires aujourd'hui pour faire fonder sa production.
Et peut-être la question bête, mais en tonnes de poissons, ça fait combien l'année?
Alors, en moyenne, on est entre 30 et 35 tonnes de poissons, principalement poissons blancs, hein, tout ce qui sera gardon, rotangle, ça va faire partie d'une grosse activité, hein, de vente. La carpe, donc plusieurs formats de carpe, des carpes destinées à la consommation, hein, à celles qui vont rentrer dans nos plats de restaurant ou dans notre conserverie.
Mm-hmm. Ça, on va en parler après, restaurant, conserverie, ça sera encore un autre côté.
Également des carpes qu'on appelle carpes trophées, qui vont, elles, être beaucoup plus commercialisées pour les carpodromes. Hein. Il y a des étangs qui sont spécialisés dans la pêche à la ligne, qui accueillent du pêcheur à la ligne en leur promettant des poissons de belle taille.
De belle taille.
Et donc nous... On est un pourvoyeur de ce type de poissons. Donc, c'est des poissons, un trophée, entre 10 et 30, 35 kilos.
Oui, mais ces poissons-là ne sont pas engraissés pour ça.
Ce sont des poissons, chaque année, on les pêche, on les pèse individuellement, on les remet à l'eau. On sait...
Ils ne sont pas engraissés.
Ah oui, c'est ce que je disais, engraissé.
Ce
chaussée engraisse ses poissons.
Oui, ouais, bon, l'engraissement, c'est un terme d'élevage. Mais ce qui est important de dire...
Ils ne sont pas dans un aquarium, on leur donne à manger pour qu'ils grossissent.
Là, c'est naturellement. Ça, c'est très important.
Il y a un suivi de... Je pense que... ce que tu voulais dire, tu m'arrêtes. Il y a un suivi de grandissement de la
Alors, de la carpe. Par rapport à cet aspect grossissement, hein, c'est très important de signaler qu'à la chaussée, il n'y a aucune action d'élevage réalisée sur nos étangs. C'est-à-dire qu'on alvine. Hein, l'alvinage, si on met des juvéniles ou des sujets dans un plan d'eau au démarrage vide. Et ensuite, c'est la nature qui va pourvoir aux besoins des animaux.
La nature joue son rôle.
C'est ça. donc il n'y a pas de granulés, il n'y a pas de céréales qui sont amenées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la végétation dans nos étangs, parce que une végétation, c'est un support très important, d'une part pour la fraie, mais également pour le réseau trophique comment je peux dire, réseau trophique dans le système écologique. Et alors, pour revenir un peu en arrière, c'est une pratique qu'on a mis en place depuis le début des années 2000. Quand l'association a pris en main cet étang, le premier directeur avait cette vision de l'agriculture telle qu'on nous l'a enseignée d'après-guerre, c'est-à-dire que...
Faire du poisson pour manger.
Non, c'est faire du rendement. Le rendement. Moi, je me souviens, je suis sur le site depuis 1991, et je me souviens, quand je suis rentré dans l'établissement, le directeur me disait, tu vois, Philippe, il y a 350 hectares d'étang, on a 100 hectares de roseaux. On paye des impôts sur ces 100 hectares de roseaux. Moi, ce que j'ai envie, c'est de tous les couper, qu'on n'ait plus que ce système, vous voyez, ce système qui s'apparente à la pisciculture de truite, où on est dans des bassins en béton centimètre carré est exploité avec une densité de poisson optimale. Et lui, il avait cette idée-là. Donc les trois premiers mois que j'ai passé à la chaussée, c'était sur un bateau, avec un bateau fourcardeur, pour couper des roseaux. Et c'était vachement agréable. J'ai passé un super été, super printemps. Mais je coupais les roseaux. Et puis 10 jours plus tard, quand je repassais sur le site, ils étaient pratiquement aussi hauts que lorsque je les ai coupés. Le directeur n'a plus voulu me payer pour, pour rien. Mais parallèlement, il me demandait de mettre des engrais pour pouvoir booster justement la production primaire, la production planctonique. Et j'avais à l'époque, je crois, 12 tonnes d'ammonitrate et puis 6 tonnes de superphosphate à épandre sur l'ensemble des étangs, avec toujours le même bateau, muni d'une trémie. Et dès que j'avais épandu ces engrais-là, j'épandais du blé, 5-6 tonnes de blé, Alors, quand je posais la question au directeur, j'ai dit, mais écoutez, on a mis des engrais, mais je n'ai pas vu de différence. L'étang est toujours aussi clair. Normalement, ça devait booster la production primaire, donc donner une eau beaucoup plus turbide, plus de plancton. J'ai dit, je ne vois rien. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et puis l'épandage de blé, là, tout autour de l'étang, on n'est même pas sûr que ce soit consommé au mois de mai. Et sa réponse était de me dire, écoute, si on fait ça, c'est pour se donner bonne conscience. Moi, au moins, on ne viendra pas plus haut, mais ma hiérarchie vient pas me dire, si j'ai fait une mauvaise récolte cette année, c'est parce que tu as mal travaillé. Non, moi, j'ai mis ce qu'il fallait. Regarde, j'ai les factures. Quand il est parti, le nouveau directeur m'a laissé un peu mes coudées franches. Et j'ai dit, écoute, on ne va peut-être pas dépenser d'argent à mettre des engrais. Je pense qu'il y a un bassin versant un peu agricole. Il y en a sûrement qui se déversent dedans. Et puis voilà, on est parti comme ça. Et également, c'était de se dire, j'avais une expérience où on avait eu cette année, une année énormément de carpes. Énormément, on avait fait pratiquement 20 tonnes de poissons. Et ce même directeur de démarrage me disait, il faut les vendre à tel prix. En francs, à l'époque, ils voulaient les vendre 10 francs. Mais le grossiste qui nous les achetait, c'était 8 francs. Il dit, hors de question qu'on vende ces poissons 2 francs de moins qu'est-ce que j'ambitionne. Et cette année-là, on a eu 80% de pertes parce que trop de poissons dans les bassins, pas une pathologie qui se développe.
Une gestion différente que
maintenant. Donc, avec cette expérience, je me suis dit, on ne va peut-être pas continuer à dépenser de l'argent pour mettre des engrais dans un étang. Ça ne servira peut-être à rien. Et puis, on va produire le poisson juste celui dont on a besoin. On n'est pas des négociants de poissons, on est une association qui fait du poisson, qui a besoin de poisson pour ses ateliers agroalimentaires, pour sa restauration. Donc, on ne va pas aller plus loin. Et avec ce concept, par hasard, entre guillemets, on s'est rendu compte, avec l'arrivée du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, qui est venu faire des analyses de biodiversité, on s'est rendu compte que un cheptel en faible densité dans le plan d'eau a permis l'émergence d'une nature
luxuriante.
C'est ça, luxuriante, avec des plantes de plein eau, où on en avait une quarantaine d'espèces différentes, alors que dans les étangs traditionnels, on en trouvait entre 0 et 3, du fait d'une grosse densité. Des insectes, des batraciens, au niveau des odonates, les odonates, c'est toutes des... C'est les libellules, hein, la famille des libellules. Oui. On se rendait compte que sur, en moyenne, c'était 20 espèces sur les étangs. Chez nous, c'était plus de 40. Voilà.
Alors, je te coupe parce qu'on on a fait une renaissance d'un étang, hein, la chaussée renaissance d'un étang. Hein. Donc, on a fait ce film sur 2 ans, hein, l'association. Donc, moi, je vous invite à nous contacter parce que nous avons... ce film à disposition.
Tout à fait. Il est vraiment magnifique, en plus. On ne se lasse pas de le regarder.
Oui, voilà. Puis il y avait Benoît Paul qui nous a bien...
Voilà, le conservateur de la réserve.
Qui nous a bien aidé, voilà. Avec Alain, etc. Donc, voilà.
Et c'est vrai que, bon, je pourrais parler des plantes, hein, dans un plan d'eau, là, on voit des forums de pêche, de propriétaires d'étangs. Où c'est le gros problème de ces gens-là. J'ai beaucoup d'herbes dans mon étang, j'ai beaucoup d'herbes et j'ai beaucoup de... ça me navre, parce qu'en définitive, les gens qui sont propriétaires d'un étang, d'un plan d'eau, ne comprennent pas qu'ils n'ont pas une piscine. Hein, y a des gens qui sont propriétaires et puis qui veulent la pêche à la ligne. Ah ben, j'ai des plantes, je ne peux pas pêcher, comment je peux faire pour m'en affranchir pour tout le... Mais à un moment donné, voilà...
Pas que l'arrachage.
Milieu naturel, le poisson a besoin de ses plantes. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans le bien-être animal. Je me vois mal parler de bien-être de mes poissons si je ne leur donne pas la nature qui va avec.
Si je comprends bien, si on arrache les plantes, c'est comme si on arrachait les haies, les oiseaux, etc.
Et c'est comme si on mettait une vache dans une pâture qui n'a pas d'arbre et qui n'a pas d'herbe. Voilà.
D'abord, on veut bien la manger, entre guillemets. Ouais. On veut bien la manger, mais qu'elle soit... En harmonie avec la nature après.
Et donc, nous, notre mission...
Vous n'êtes pas obligé de manger, attention.
La mission qu'on se donne, au-delà de cet accompagnement de personnes en situation de handicap, au-delà de toutes les productions qu'on fait, c'est de dire, regardez, on peut faire une production dans une nature intacte. Voilà, c'est...
Voilà. Alors, on va faire une petite pause et après, on va vous expliquer et puis on va s'orienter. Parce que, bien sûr, nos amis de l'ESAT, on a une grosse surprise pour vous. 14 avril. À tout de suite.
Bonne journée. RTL, votre radio.
One step
On va vous faire goûter par les ondes radio, ça va faire les radios odeurs et de bonnes odeurs parce que c'est vraiment, je vois là, je suis déjà, j'en ai l'eau à la bouche parce qu'il y a de très belles choses et toutes ces belles choses qu'on va vous expliquer, on va essayer de vous faire rêver là-dessus, vous pourrez venir les déguster au village du 14 avril, lors de la grande exposition, la grande exposition de la bourse aux poissons. le grand événement que tout l'Est de la France attend. Comme l'année dernière, 3500 personnes, 3500 visiteurs. Je le souhaite à ce qu'ils se bousculent dans le village. Et ben, on va vous expliquer tout, comment ça va se passer, comment on est en train de le réaliser. Et là, je laisse la parole surtout à nos deux amis qui sont là, je vous répète. Hein, il y a Fabrice et puis il y a Philippe. Alors Fabrice, on en est où, notre fameux village qu'on va faire sur 200 mètres, plus de 200 mètres carrés?
Il est presque abouti, hein, donc il est prêt à être installé. Donc vous pourrez être accueillis pour voir ce qu'on produit aux étangs de la Chaussée, hein, nos ateliers, nos différents ateliers. Et si vous êtes à la recherche de produits authentiques à base de poissons et découvrir de nouveaux goûts, je vous invite à venir donc le 14 avril.
Au NEC, à Marly, voilà. À la Bourse aux poissons.
Donc avec mon collègue Philippe Monchieri, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on produit comme produit à base de poisson.
Et attention, il n'y aura pas que Philippe et Fabrice, hein, il y aura aussi les petits jeunes qui sont avec vous, qui travaillent.
Tout à fait.
Voilà. Vous serez, voilà. On m'a dit que vous seriez à peu près 5, 6, voire plus.
On n'a pas encore finalisé l'équipe, mais on sera bien 4-5.
Voilà, il y aura vraiment du monde pour vous faire visiter ce village et les différents stands qu'il y aura dans ce village, spécialement la Chaussée. Et vous verrez que vous serez dépaysés, quoi. Je ne peux que vous dire cela.
On a conçu une petite exposition. En tout cas, on a essayé de recréer une forme de cadre dans lequel nous, on va évoluer. Sur le stand qu'on va animer, il y aura installé un écran télévision sur lequel des photos, des petits films aussi passeront pour vous présenter la structure et puis la nature qu'il y a autour de chez nous. À cet endroit-là, il y aura aussi des interventions. Mmh. Hein, Fabrice interviendra par rapport à son métier de guide nature, par exemple.
Oui, bien sûr, oui. Il y aura un hall, il y aura un espace conférence qui sera intégré naturellement, j'ose dire.
Voilà. Hein,
il y aura beaucoup de monde qui vont passer chez vous.
Donc c'est une petite translation. Hein. Juste après cet espace-là, on aura recréé l'univers un peu aquatique. On n'amènera pas de poissons, on y avait pensé, mais on ne pourra pas amener les poissons d'un point de vue logistique, c'est compliqué. Même pour les animaux, c'est compliqué. Par contre, on recréera d'une façon artificielle tout cet univers dans lequel viennent s'implanter nos plantes hélophytes. Donc vous aurez une présentation d'une bonne partie des plantes que nous on produit. Je ne sais pas si on arrivera à vendre des plantes sur le site, parce que c'est assez compliqué.
Non.
Je sais qu'on essaiera de faire au mieux. Par contre, on vous invitera, si vraiment vous avez des gros besoins de plantes hélophytes, à venir directement
chez
nous.
Mais il y aura quand même un espace vente. Vous pourrez repartir avec quelques plantes, vous pourrez repartir surtout... avec toute la production, que ce soit nourriture, etc.
C'est ça. Et ça, c'est
avec
le triptyque de notre exposition, la présentation de nos produits de bouche. Hein. Donc là, on en a amené quelques échantillons. Hein. C'est des rillettes de poisson déclinées, rillettes de carpe notamment, hein, déclinées sous différentes recettes. Hein, une rillette de carpe à la salicorne. La salicorne, c'est un produit... Bon, la salicorne, c'est une herbe des eaux, une plante de terre salée.
Mais on en a en Lorraine.
On en a en Lorraine, mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est des milieux protégés, des espaces sensibles. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, on a voulu le mettre à l'honneur, même si on va le chercher sur la côte atlantique. Hein, mais on a voulu quand même le mettre à l'honneur sur nos recettes parce que c'est quand même une herbe qui appartient quand même à notre terroir, du côté de Marsal, près de Château-Salin.
Oui. On en a parlé, beaucoup. Il y en a plusieurs.
Voilà.
Il y a Blanche-Église, Lezay, entre autres.
Il y a plusieurs. Mais c'est protégé et il y a une interdiction de cueillette.
On a Stéphane Corbeil qui est conservateur, ouais, justement, des Marsalais, ouais, donc, qui sera là,
c'est ça,
à la bourse aux poissons et qui vous en parlera.
Ne vous inquiétez pas, ce produit n'a pas été récolté sur nos sites sans dérogation.
Non, on ne peut pas, c'est protégé.
Voilà, on a une autre yette.
Avec les yeux, on peut déguster.
On a une autre yette qu'on a faite avec, pour donner un petit goût fumé. On a fumé du filet de carpe et puis on l'a intégré dans notre recette de rillettes de carpe. On a également fait
des...
on a une soupe de poisson, on a décliné le
poisson.
Ouais, alors on a voulu donner des appellations.
Soupe aux poissons d'eau douce,
hein. On a voulu donner des appellations un peu marrantes. La traillette, hein, c'est un peu c'est l'épuisette en Lorrain, hein, dans le direct. Hein. Et puis on a l'autre qu'on a dû appeler la...
Allez, Fabrice.
Il faut les...
La prochaine fois, on prend le cuisinier avec.
Non, l'autre, c'est la filoche. La filoche.
La
traillate, elle est faite à partir de poissons, on va dire, gros, comme la carpe. Hein, c'est de la carpe. La traillate, c'est l'épuisette avec laquelle le pêcheur vient attraper le gros poisson parce qu'il n'arrivera pas à le sortir de l'eau sans avoir ce moyen. Voilà, ça rappelle que c'est du poisson type carpe qui sera dedans. Et on a l'autre qui sera la filoche. Hein. Mais c'est un autre nom, mais c'est beaucoup plus fait à partir de petits poissons blancs.
D'accord.
Tous ces petits poissons. Et même, alors c'est quelque chose que nous, on met en avant parce que il y a certains poissons dans au niveau de la pisciculture d'étang qui sont moins bien cotés au niveau vente. C'est-à-dire que si on prend de la brème, si on prend du carassin, si on prend même des poissons invasifs, il y a des poissons comme la perche-soleil qu'on trouve de temps en temps, et plutôt que de... C'est un poisson qu'on doit éliminer. Plutôt que d'éliminer ce poisson puis de dire bah, « tiens, je le mets à la poubelle
ouais, », chose que... C'est un très beau poisson en plus.
En plus, mais pour moi, c'est la vie. Quoi. Pourquoi mettre une vie à la poubelle alors plutôt que de la mettre à la poubelle...
Surtout qu'elle n'a pas demandé à venir. Hein.
C'est ça.
Elle a été importée. Ben,
voilà. On préfère la mettre dans une soupe. Au moins, ça valorise la mort de ce pauvre animal, quoi, entre guillemets. Voilà, donc on a fait une soupe qui permet de valoriser ces poissons qui n'ont pas forcément de valeur sur le marché d'empoisonnement, mais qui peuvent avoir une autre valeur d'un point de vue culinaire. Moi, je me souviens quand j'étais gamin puis que j'allais à la pêche, tous ces petits poissons-là qu'aujourd'hui, tout le monde, que personne ne veut manger, ces petits poissons-là, ils partaient dans la poêle de ma maman on en faisait une friture.
C'était
aussi bon que de manger n'importe quel autre poisson. Mais voilà, il y a des habitudes alimentaires qui se sont perdues. Oui, maintenant, les gens jurent beaucoup plus par les poissons, entre guillemets, nobles des étangs, le brochet, la perche, le cendre. Nous, on préfère valoriser ces poissons. Alors, beaucoup ont une idée, on va dire un a priori, par rapport à la carpe, par exemple. Oh, la carpe, si on peut, moi, souvent, on accueille des classes à la chaussée, on leur pose la question, qu'est-ce que ça vous inspire au niveau culinaire, le poisson d'étang, notamment la carpe? Ah, oh, ça pue la vase.
Ça sent la vase, oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est comme les rognons. Alors,
hein. Oui, non, mais il faut dire que à la chaussée, ce goût de vase n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est sur un terroir, on a de la chance d'être sur un terroir où ce qui fonde le goût de vase n'apparaît pas. Ce n'est pas le substrat, le vaseux qui va donner le goût de vase au poisson. C'est tout un déséquilibre du milieu naturel qui va concourir à l'apparition d'algues bleues, des cyanophycées. Ces cyanophycées vont conférer, par les toxines qu'elles vont émettre, conférer à la chair du poisson, parce que le poisson va les consommer en respirant, ça va rentrer, et ça va conférer à la chair du poisson cette saveur vaseuse. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que toute l'année, on arrivera à fournir à nos clients, à nos restaurateurs, parce qu'on fournit aussi des restaurateurs, du poisson qui a une saveur...
De poisson.
La saveur, la saveur de la carpe est quand même relativement douce. Alors, les gens, beaucoup, reprochent au poisson d'étang d'avoir des arêtes, trop d'arêtes par rapport au poisson de mer. On propose des filets de carpe qui sont désarrêtés. On propose aussi des conserves ou des plats cuisinés qui ont été faits à partir d'une chair de poisson qui a été désarrêtée. Donc, aucune chance d'en attraper.
Sans mauvais jeu de mots, quand ils vont goûter vos carpes, ils vont plus s'arrêter.
C'est ça. Donc, en Alsace, il y a un plat qui est très réputé, c'est la carpe frite. On connaît des pisciculteurs qui font chaque année 300 tonnes de carpes juste pour alimenter la filière carpe frite dans leur région. On se dit c'est quand même dommage d'aller jusqu'en Alsace pour manger ce produit. Donc à la chaussée, c'est quand même un plat que nous, on met à l'honneur dans notre restaurant. La carpe frite, c'est une carpe qui va être revenue dans une friture, panée comme ça. Mais également accompagné.
C'est une carpe ou c'est juste la carpe?
Alors c'est une carpe qu'on a transformée en goujonnette, c'est-à-dire que le filet, on l'a émincé. Mm-hmm. On le passe en friture. Alors déjà il va être pané avec une semoule de blé dur. Il va être pané pour être bien croustillant, saisi dans l'huile, et ensuite accompagné d'une bonne portion de frites et la petite sauce qui va bien avec, et un petit peu de salade.
Et ces carpes frites, ces carpes frites, hein. On peut les manger chaud, froid?
Chaud. C'est quelque chose. Alors, le projet, aujourd'hui, c'est pour notre restaurant. Le projet, quand on aura développé, on est en train de construire un atelier agroalimentaire bien aux normes. Le projet, quand on aura développé ça, c'est de pouvoir proposer ce produit en surgelé aux consommateurs. Comme ça, il passe dans nos magasins. Comme on prend un filet, un poisson pané d'Alaska, le colin, comme on voit généralement, ben là, on peut prendre une portion de carpe frite qu'on passera au four. Pas besoin de le remettre en friteuse. Il sera passé au four avec une recette qui sera bien indiquée au client.
Alors, voilà. Moi, j'ai une petite idée. Parce qu'au NEC, on a une cuisine, on a un four pour réchauffer. Vous en ramenez et puis on fait goûter.
Ça peut être une idée. Alors, on a aussi une autre...
Parce que là, si aussi, on fait l'inauguration à 10h30.
Ouais. Mais bah, c'est quelque chose qui peut être...
On a.
Voilà, on peut regarder ça.
Ça serait sympa. Bah, une par personne, deux pour moi, trois pour moi.
Ouais. Alors, on a une autre idée.
Moi, je vous donne l'idée. Un petit cocktail du domaine.
Vaut mieux un petit vin blanc ou un gris de Meuse.
Voilà, ouais. Oui. Vous le ramenez.
Ouais.
Voilà.
Mais on a aussi, d'un point de vue débouché de plats cuisinés, hein, on a aussi une idée par rapport à la restauration scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la loi Egalim. Personne dans Lorraine, aucune industrie de poisson n'existe. C'est-à-dire que les enfants qui vont manger du poisson, ils doivent venir de la côte, de la mer. Voilà. Notre projet, on a déjà mis en place, en œuvre, on a déjà fait tester aussi à des enfants, c'est l'automne dernier, c'est de leur proposer...
Il y a la semaine du goût.
C'est ça, des croquettes de poisson. Donc la croquette, c'est une part de carpe avec une part de féculent, de la pomme de terre mariée à des légumes. Donc sur une portion, on a tout quelque chose, comment dire...
D'équilibré.
Et l'objectif aussi, c'est de ne pas faire en sorte que ce produit sente fort le poisson, parce qu'on sait très bien qu'il y a des enfants ils goûtent, c'est comme ça, il faut quelque chose qui soit quand même relativement équilibré. Donc voilà, notre croquette de poisson qu'on va essayer de diffuser auprès des cantines scolaires ou des restaurations collectives, et qui va fonder pour nous, important, un atelier qui pourra travailler d'une façon continue avec toute la journée élaboration de croquettes.
Donc, dans ce village, on va avoir la boutique, la petite restauration, puisque maintenant on vient de le mettre en place.
Oui.
Les plantes, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Parce que c'est grand quand même.
Alors, on a aussi un autre producteur. Alors, je parle pour moi, parce que je fais partie d'autres producteurs.
Oui, justement. C'est bon, j'ai lancé la... le poisson.
Voilà. Mon épouse s'est installée. Elle était éducatrice au foyer de la chaussée, chef de service, jusqu'en 2017. Et là, elle a voulu changer de métier. Et elle s'est installée en tant que productrice de plantes médicinales et aromatiques sur le site de la chaussée. Alors, pas les ZAT, mais juste en bordure de la réserve naturelle de Lorraine. Donc, c'est l'occasion d'avoir un stand. Ce grand stand était l'occasion de l'accueillir avec ses produits nature, donc à base de plantes. Ça peut être des tisanes, ça peut être des sirops, ça peut être des vinaigres parfumés, des sels parfumés, des sucres parfumés, donc des cosmétiques aussi. Bon, je pense qu'on restera dans l'alimentaire et pas trop de cosmétiques.
Si.
On verra bien ce qu'on peut faire. Des confitures, voilà, on a plein de choses.
Il y a quand même des gens qui, les dames qui seront là, parce qu'il y a du monde.
Oui,
mais c'est pas. L'aquariophilie, c'est plus plus. Avant, c'était réservé à un public masculin. Oui. Maintenant, chez nous. Ouais. Tout le monde est le bienvenu.
Alors, la difficulté, c'est que cette manifestation se fait à un moment où la nature arrive seulement. Donc, c'est vrai que là, il faut reconstituer.
Promis, on viendra en décembre l'année prochaine.
Oui, c'est ça, ce serait bien aussi. Ouais.
Donc, venez vite voir, il y aura la descendante de Hildegard von Brion qui sera avec nous.
C'est ça.
Moi, j'aurais juste une question, peut-être. Est-ce que vous intervenez sur les marchés, par exemple?
Oui. Alors, à la chaussée, les AT
chez nous
Les AT ne fait plus de marché. Pour l'instant, c'est trop compliqué à mettre en œuvre. C'est toujours des temps décalés. C'est des longues amplitudes. Et ça ne correspond pas beaucoup au règlement, à la convention collective. C'est compliqué de laisser des gens partir à 6h du matin, revenir à 14h. C'est fatigant. Il faut aussi être en mesure de faire cet acte commercial. Il faut pouvoir conduire. C'est une grosse autonomie.
Mais Géraldine, le village que tu verras, il est déplaçable.
Oui.
Donc on pourra le mettre la salle des fêtes si la mairie veut bien. On fait une journée spéciale.
Par contre, nos produits, on va essayer de les diffuser. Là, aujourd'hui, on diffuse nos produits dans les boutiques d'apporteurs.
D'accord.
On les trouve à La Yotte, à Ille-sur-Moselle, on les trouve au Grand Pré, à Zagdoni. On a une petite boutique à Saint-Miel, en Meuse, et puis une autre à Bar-le-Duc. C'est des magasins d'apporteurs dans lesquels on essaie de diffuser. À côté de ça, on a quelques points de vente qui nous achètent les produits et qui les diffusent.
En tous les cas.
Ce sont des produits, quand on parle de terrine, de rillettes et choses comme ça, ce sont des produits très très adaptés à un apéro. Un apéro qui va être, qui va sortir un peu du lot.
Convivial, et puis voilà. Et on a déjà commencé. Hein. Moi, on vous laisse papoter, parce que nous, notre apéro, on a pas d'apéro, mais on a... Alors, ça, c'est quoi? Alors, tu vas nous expliquer quand même, Philippe? Donc, on a sur un petit gâteau spécialement... C'est un gâteau à base de quoi?
C'est un gâteau tout simple. Hein. Il y a des graines de courge.
Graines de courge.
Donc, une farine. Hein, et puis, on a mis de la menthe aquatique dedans pour le rendre parfumé et frais. Voilà. Donc, c'est un petit gâteau qu'on avait élaboré parce qu'on avait une demande pour faire des colis cadeaux avec un colis vegan. Et on s'était dit, tiens... On ne peut pas mettre de poisson pour les véganes, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc on avait pris des produits que mon épouse avait réalisés, des produits à base de plantes. Et les AT, nos cuisiniers, ont élaboré ce petit gâteau qui se marie très bien avec un ketchup de betterave ou alors avec une rillette ou une terrine de poisson.
En tous les cas, c'est très très bon avec cette petite rillette. Est-ce que vous aurez, est-ce que vous allez ramener des petites fiches, des petites fiches justement pour préparer ça, pour montrer aux gens qu'ils peuvent peut-être le faire chez eux?
C'est notre recette.
Petite recette.
On va se la conserver jalousement.
Oui, il va dire.
Mais dans tous les cas, il y aura ce type de produit sera exposé sur le stand et les gens pourront y accéder,
Les gens ne voient pas à la radio. Ce sont des petits pots style.
Oui, c'est de la conserverie. C'est pas le parfum. C'est du style. Il y a un joint caoutchouc. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut qu'on améliore, mais là, c'est un travail aussi de création, c'est l'étiquetage, parce que là, c'est un étiquetage vraiment artisanal qui ne met pas trop en valeur. C'est quelque chose sur lequel on est actuellement. C'est des bocaux de 80 grammes.
Est-ce que ce sont des pots que les gens vous ramènent ensuite
Ils peuvent les ramener. Maintenant, on s'est dit, ils ont quand même
ils sont
sympas en termes de comme ça, le design. Et puis donc, c'est quelque chose que les gens peuvent garder chez eux, puis conserver pour faire un petit ramequin mettre un flan là-dedans ou une petite...
Il y en a certains, c'est une consigne, quoi, en fait.
Alors, nous, on n'a pas de consigne, parce qu'en définitive, c'est très compliqué. On avait cette idée de recycler ce verre, donc on le reprend. Mais dans la conserverie, Il y a une stérilisation.
Oui, voilà.
La stérilisation, bah, c'est porter une haute température, le verre. Mmh. Et il suffit qu'il y ait une micro-fissure dans le verre, parce que le client qui aura ramené l'air, peut-être qu'il l'aura laissé tomber, ça n'aura pas pété, mais il y aura une micro-fissure qui fera qu'à la stérilisation, bah, ça va éclater. Ça va éclater. Donc, c'est dommage. Mais alors après, il y a aussi l'étiquette, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, c'est très très cher de retirer l'étiquette quand on nous ramène les produits. L'étiquette est souvent bien collée, et on n'a pas le choix, quoi, de mettre une étiquette qui colle bien. Le mieux, ce serait d'avoir une étiquette puis de la coller avec du lait, comme ça se faisait dans le temps. Mais de temps en temps, ces étiquettes-là, elles ne tiennent pas le coup. Et bon.
Oui, parce que là, je vois rillettes de brochet.
Rillettes de brochet.
Je me permets.
Oui, tout à fait. Ouais. On a des
carpes à la provençale.
Oui, alors, c'est des terrines. Une autre terrine de carpe aux champignons de Paris.
Vous vous rendez compte?
On en a fait encore deux autres, des terrines. Une terrine qu'on appelle du baron.
Du goût et du bon goût. Et en plus, c'est chez nous.
On avait créé une recette festive avec des morilles et puis du foie gras. Donc, rillettes de carpe aux morilles et au foie gras pour avoir quelque chose d'un peu plus festif.
Celui qu'on a ouvert, là, il est excellent. Hein, parce qu'après,
et on en aurait créé une autre terrine de Noël, où on a mis des épices, des épices de pain d'épices dedans, les quatre épices, hein, et puis des châtaignes. Donc voilà, pour un peu faire une...
Ah bah pour un apéro festif, même en été, franchement, c'est...
La première terrine de carpe qu'on a faite, pour la petite idée, parce que quand on une carpe, bah, c'est des filets, hein, c'est une carcasse, et à l'intérieur de la carcasse, il y a quand même des viscères, mais dans les viscères, il y a des œufs. Il y a des œufs ou des laitances, hein, le mâle, c'est ce qu'on appelle le lait, et ça fait que ça représente quand même une certaine, c'est pratiquement 5% les laitances du poids de l'animal, quoi. Donc on se disait... On va quand même, c'est consommable, on va quand même pas les mettre à la poubelle. Donc ces gonades là, c'est lait qu'on appelle le lait de poisson, on les avait conservés, on les avait intégrés dans notre première recette de terrine de carpe. Quand on expliquait aux gens ce que c'était,
ils en voulaient plus.
C'était un petit peu moins vendeur. Alors, elle existe toujours.
On mange bien des tripes.
Oui, tout à fait.
C'est du caviar.
C'est du caviar. C'est
des voilà.
Caviar, alors, c'est des œufs.
Les œufs, ils partiront dans la soupe.
Bon, bah, c'est sûr que les véganes. Ils vont dire, on n'en veut pas, mais moi je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils font des plantes carnivores, les véganes?
Ah oui, mais après...
Franchement.
Bonne question.
Hein? Eh bien, écoutez, moi je pense on a encore le temps, là, on vous fait profiter chez vous de notre petit apéro.
Là, on a ramené aussi des quenelles de carpe. Hein. On a aussi décliné ça en plats cuisinés. On a fait des cannelloni au poisson. On a fait des lasagnes de poisson. On a essayé la brandade de poisson. On a essayé beaucoup de recettes pour pouvoir proposer...
Parce qu'on n'en a pas parlé, vous avez quand même le restaurant qui est renommé. Hein. Bon, il n'est pas étoilé par le Michelin, mais moi, je leur donne 3 étoiles parce que j'ai eu le plaisir de venir manger chez vous. On est très bien reçus dans un cadre vraiment merveilleux et on y mange très bien. Mais pour pas grand-chose, hein, je pense. Oui. Surtout quand on est invité. Mais c'est très très bon, c'est très très bon. Franchement, moi j'invite les gens à passer un dimanche en famille, se
aujourd'hui,
promener.
Aujourd'hui, on est ouvert en semaine. C'est vrai que on n'ouvre pas les week-ends.
Ah bah écoutez.
Sauf ce dimanche est ouvert parce qu'on avait un groupe qui avait réservé, mais bon, on est complet,
oui,
je crois.
Oui, après c'est sous réservation.
Ouais, c'est vrai que les dimanches, samedi, on peut accueillir des clients sous réservation et avec un groupe, on va dire, d'une trentaine de personnes.
Voilà.
Sinon, économiquement, c'est pas tenable.
Donc, si vous voulez aller le dimanche manger, prévoyez une grande famille. Hein, alors, puis qui vous...
dans le projet de reconstruction, on va refaire un nouveau restaurant, une salle de séminaire dans laquelle des entreprises pourront venir faire leurs travaux. Hein. Un magasin avec un bar. Donc, on sera amené à être, une fois que cette construction sera réalisée, on sera amené à ouvrir les week-ends, à accueillir les gens, même dans l'après-midi, s'ils veulent prendre un petit café au bord de l'eau. On va mettre une belle terrasse.
La guinguette, quoi.
Ouais, une guinguette également. Guinguette, on prévoit ça, une guinguette, une journée par semaine. Ça peut attirer du monde. Voilà. Mais ça, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des travaux. Et on est prêt à revenir.
Vous serez la bienvenue au fil de l'eau. Il n'y a pas de souci. Parce que la chaussée, ça ne date pas d'hier. Et je ne pense pas que ça se termine aujourd'hui.
Non, Non, c'est pas le projet.
Donc, on est quand même boutique du parc.
Oui,
oui, ça aussi, il faut le dire.
Et en termes d'accueil, et notamment accueil de week-end, il y a des guides nature du parc naturel qui ont été formés. Ils sont ambassadeurs du territoire et ils mettent en valeur les producteurs locaux. C'est-à-dire que lors de nos sorties, à chaque fois, on présente un produit, on présente un producteur et un terroir. On fait de la dégustation. J'aime bien dire qu'on est des passeurs de nature. Et quand on voit des personnes comme donc Nathalie Monquiry, qui, elle, fait de la récolte, hein, je veux dire, c'est quand même...
cueillette.
De la cueillette.
La cueillette, oui.
Cueilleur, c'est quand même un métier superbe. Et faire découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas. Vraiment des saveurs qu'on ne connaît pas. On a des goûts vraiment très, très centrés maintenant, des nourritures qu'on connaît. Mais là, quand on commence à goûter à ça, on découvre des saveurs vraiment assez spéciales qui ravissent le palais.
Ah oui, effectivement. Bah, c'est bien ça. On est, t'avais pas prévu quelque chose le 14 avril en plus ?
Le 14 avril, donc je propose une activité dès 8h du matin, une belle balade en pleine nature sur un ENS, un espace naturel sensible.
À Marly.
À Marly, en parlant des écosystèmes, de la faune et de la flore, et plus particulièrement des poissons qui vont rejoindre justement la dégustation qui va suivre en salle. Pour tous les poissons d'eau libre et d'eau close, d'eau douce.
Donc départ 8h.
8h.
Au Neck.
Au Neck.
Vous faites votre petite balade.
Voilà.
Vous revenez au Neck.
Voilà.
Et on déguste.
Et on vient à la découverte des produits de l'ESA, des étangs de la Chaussée.
Alors moi, je vous préconise, c'est d'aller sur le site soit de RPL, soit sur le site Oléron, sur Facebook, Club Oléron. Vous avez vous aurez le programme, etc. Puis on va bientôt faire une spéciale bourse aux poissons où on vous répétera tout ça. Je vous invite surtout pour la balade, c'est de prévenir, de téléphoner, de prévenir voilà. Fabrice, excusez-moi, puisqu'il va ramener les petits matériels, c'est-à-dire les petites jumelles, etc. Donc, si vous venez à 50 sans le dire, il faudra vous partager les jumelles. Mais on vise sur combien 30 ?
30, oui, 35, une trentaine de personnes.
Voilà, voilà,
ça
voilà.
Sera une sortie généraliste sur cet écosystème le long
particulier,
de la Seine.
Oui,
particulier,
oui. Il y a de très... Je ne sais pas beaucoup, si elles seront déjà en fleurs, mais il y a des orchidées.
Beaucoup d'observations, d'informations sur les écosystèmes aquatiques. Et puis on parlera de plantes, on parlera donc de poissons, de transformation de poissons. Et puis après, on pourra faire de la dégustation.
Voilà. Et puis après aussi, tu as... un petit atelier
de menuiserie.
Menuiserie, voilà, mais surtout photo aussi.
L'atelier,
voilà, c'est celui-là que je voulais parler.
Effectivement.
Voilà,
il y aura donc un atelier photo accessible au plus jeune public, donc atelier enfant, atelier adulte. Et après, je ferai une petite conférence sur ce qu'est le métier de guide nature et toutes les filières qui permettent d'y accéder.
Voilà, voilà. Et tu auras encore l'occasion de parler de la Chaussée.
Oui, tout à fait.
Vous aurez franchement, venez au village à l'intérieur de la bourse aux poissons. Parce qu'il n'y aura pas de poisson d'eau vive, mais vous aurez toutes les... Il y a 20 000 litres d'eau qui seront là. Donc, que ce soit d'eau douce ou d'eau de mer. Et puis, on est là. On va passer une journée vraiment extraordinaire puisqu'il y aura des conférences. Mais ça, je vous en parlerai au prochain 15 jours. C'est le 8. Voilà. Le 8, spécial bourse aux poissons. On refera un petit résumé. On vous dira tout ce qui va se passer. Et puis, ça change tellement notre programme qu'on va en rajouter. On va en rajouter, on se met ça à l'appel.
Oui, puis tellement d'idées.
Voilà, puis nous, on va continuer à déguster ça en vous disant à bientôt au fil de l'eau.
À bientôt, bonne journée.
Au revoir. Bonne journée
et
à vous, merci beaucoup.
Et bonne dégustation.
Merci, au revoir, à bientôt.